Europe Soir, le 18-20. Thierry Dagiral.
Restez avec nous dans quelques secondes, votre journal de 19h avec le sprint à l'Assemblée pour la loi sur l'extension du pass sanitaire. 19h15, le conseil lecture de Stéphane Place. 19h20, le club des idées. Gros plan sur les JO à la veille de la cérémonie d'ouverture. On va vous raconter les petites et grandes histoires des Jeux Olympiques 39-21. Vous prenez bien sûr la parole si vous le souhaitez. Mais d'abord, toute l'info avec Sophie Tussaud. Rebonsoir Sophie.
Bonsoir Thierry, bonsoir à tous.
Bon début de soirée sur Europe 1. Il est 19h.
C'est la pagaille, la chienlit, le désordre, l'épuisement de tout le monde dans des contrôles qui n'ont aucun sens et qui provoqueront partout des conflits tels que sont les Français aujourd'hui.
Les débats sont plus que difficiles à l'Assemblée sur le projet de loi sur le pass sanitaire. L'opposition ne lâche rien. Le texte pourrait ne pas être adopté à la fin de la semaine, comme se l'était fixé le gouvernement.
Ce chiffre alors que la campagne vaccinale accélère et que l'épidémie est de nouveau en train de flamber. Plus de 5 millions de personnes à risque, c'est-à-dire souffrant de comorbidité, n'ont toujours pas reçu aucune injection pour se protéger du Covid-19.
L'affaire Pegasus continue d'agiter les États en France. Un conseil de défense extraordinaire s'est tenu ce matin. En Israël, une commission d'enquête a été créée pour examiner des informations selon lesquelles le logiciel espion aurait surveillé des responsables gouvernementaux.
La journée du souvenir en Norvège, il y a 10 ans, le pays était secoué par la tuerie du Toya. 77 personnes tuées par un extrémiste de droite. La tendance météo avec vous, Marlène Duré.
Fini le beau temps à l'ouest. La dégradation s'amorce par la Bretagne. Avec le retour des orages, une alerte orange est en cours dans les Côtes d'Armor, le Finistère et le Morbihan. Donc pour des orages violents que l'on attend demain. Et cela va entraîner bien évidemment une baisse des thermomètres.
Point complet à la fin de cette édition.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Depuis hier, les députés examinent le projet de loi sur l'extension du pass sanitaire. Les débats sont houleux, l'opposition ne lâche rien.
Des centaines d'amendements ont été déposés. Les députés peinent à s'accorder face à l'ampleur des débats. Un jour de plus a été accordé aux députés pour discuter du texte. Hélène Terzian, vous suivez ces débats pour Europe 1 et aujourd'hui encore, les oppositions sont vent debout.
Oui, à commencer par les députés de la France Insoumise, très critiques par exemple sur l'utilisation du pass sanitaire sur le réseau ferroviaire. Jean-Luc Mélenchon ne comprend pas qu'il soit exigé dans les TGV, mais pas dans les TER.
C'est la pagaille, la chienlit, le désordre, l'épuisement de tout le monde dans des contrôles qui n'ont aucun sens et qui provoqueront partout des conflits tels que sont les Français aujourd'hui.
Les critiques viennent de tous les rangs. Le député LR Philippe Gosselin s'oppose au pass sanitaire dans les centres commerciaux, exigé dans ceux de plus de 20 000 mètres carrés.
Dans un certain nombre de quartiers, c'est parfois la pharmacie du coin qui se trouve à l'intérieur du centre commercial. Donc soumettre à une obligation de pass les centres commerciaux, c'est vraiment attenter à l'élémentaire du quotidien.
La grande majorité des amendements déposés sont rejetés, mais petite victoire lorsque, contre l'avis du gouvernement, la députée vote contre le pass sanitaire dans les hôpitaux et dans les EHPAD.
Pour 70 contre 67. Donc l'amendement est donc adopté.
Petit moment de répit avant un rappel à l'ordre du président de séance pour accélérer les débats. Parce qu'avec encore plusieurs centaines d'amendements, les députés pourraient débattre dans l'hémicycle jusqu'à l'aube, alors que le texte doit arriver demain au Sénat.
Hélène Terzian à l'Assemblée nationale pour Europe 1.
Et en marge de cet examen, et alors que le nombre de cas de contamination explose, de plus en plus de départements réimposent le port du masque en extérieur.
Et oui, le gouvernement lui mise toujours sur la vaccination. Objectif 50 millions de primo-vaccinés fin août. Nous sommes dans un sprint vaccinal, a déclaré tout à l'heure le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal.
À Nice, les professionnels du tourisme s'organisent pour rendre plus facile l'accès à la vaccination pour leur personnel.
Un centre de vaccination temporaire a été ouvert aujourd'hui au cœur de la vieille ville Courcelles. 400 personnes vont être vaccinées en 48 heures au plus près de leur lieu de travail. Christophe Souk est le vice-président de l'UMINIS Métropole et propriétaire de plusieurs restaurants.
Moi j'ai 130 salariés sur 5 établissements, j'avais même pas 50% de vaccinés parce qu'ils n'ont pas envie de se lever le matin pour aller faire une heure de queue pour aller se faire vacciner. Parce qu'il faut s'inscrire, il faut s'organiser. Et là, bah écoutez, c'est la proximité et la flexibilité. Honnêtement, quand vous leur dites « je te mets un endroit à proximité de chez toi et tu viens quand tu veux, le jeudi et le vendredi entre 8h et 16h », Tu as le temps de te lever, tu as le temps de ton petit-déj, tu as même le temps d'aller à la plage si tu veux et tu viens de faire vacciner. Le langage, il a totalement changé, l'attitude, elle a totalement changé. Et on le voit, puisqu'ils viennent. Et moi, je suis content parce qu'il y a des professionnels en plus avec qui ils peuvent parler. J'ai des salariés qui ont des doutes et les personnels de santé qui sont là pour les rassurer. Moi, je ne suis pas médecin, je leur ai juste expliqué, aidez-vous, aidez-moi. Et vous allez voir, ça va très bien fonctionner. Ces gens-là, il fallait les chercher. Ils ne sont pas convaincus de l'utilité que eux soient vaccinés. Et la clé, elle est là. Si on arrive à les convaincre de l'utilité, de l'importance que cette tranche d'âge-là de 18-30 ans soit vaccinée, on gagne.
Christophe Souk, vice-président de l'UMI Nice Métropole, au micro européen de Frédéric Michel.
Et alors que la vaccination accélère un peu partout, cette donnée de l'assurance maladie qui inquiète plus de 5 millions de personnes à risque n'ont toujours reçu aucune injection pour se protéger du Covid-19, Virginie Riva.
Oui, il reste encore beaucoup de monde à vacciner, même si la vaccination sur ces populations-là progresse. À la mi-juillet, 78% des personnes sous dialyse avaient un cycle vaccinal complet, 74% chez les personnes souffrant d'un cancer actif et près de 70% pour les diabétiques. L'autre facteur de risque, c'est évidemment l'âge. Et là, il y a encore plus de 2 millions de personnes à partir de 64 ans qui n'ont pas eu d'injection. C'est la raison pour laquelle la Caisse d'assurance maladie a envoyé près de 7 millions de courriers, multiplié les SMS avec un numéro coupé fil pour faciliter la prise de rendez-vous. Depuis le 14 juillet, les médecins généralistes peuvent également avoir accès à la liste de leurs patients non vaccinés pour conseiller à ceux qui sont le plus à risque de faire des formes graves d'aller se faire vacciner dans un rapport de confiance. 4800 médecins en ont fait la demande à ce jour. Enfin, dès cette fin de semaine, les pharmaciens vont également être sollicités. Ils vont recevoir des kits pédagogiques à remettre en officine aux personnes souffrant de diabète ou en situation d'obésité. Et la semaine prochaine, l'assurance maladie va contacter les ados de plus de 16 ans sans médecin traitant et ayant des pathologies à fort risque.
Virginie Riva.
L'actualité politique à présent avec l'information de cette soirée. Valérie Pécresse se lance dans la course à l'Élysée.
La présidente de la région Île-de-France annonce sa candidature dans le cadre d'une primaire à droite pour 2022 pour restaurer la fierté française, dit-elle. Valérie Pécresse qui sera l'invitée du journal de 20h ce soir sur TF1.
L'affaire Pegasus à présent au cœur d'un conseil de défense exceptionnel ce matin. Une réunion consacrée à la question de la cybersécurité qui a permis d'avoir un point d'étape sur les investigations en cours.
Le Maroc, accusé d'avoir utilisé le logiciel israélien pour surveiller 50 000 lignes à travers le monde, nie les accusations et attaque ce soir en diffamation Forbidden Stories et Amnesty International. En Israël, l'État est depuis quelques jours sous le feu des critiques. Le logiciel a été créé par la société israélienne NSO Group. Et cet après-midi, le Parlement israélien a annoncé vouloir créer une commission d'enquête. Clotine Bravko, la correspondante d'Europe 1 en Israël.
Depuis le début de la semaine, le gouvernement israélien faisait profil bas. Un silence embarrassé car en Israël, c'est le ministère de la Défense qui autorise les licences d'exportation du logiciel de cyberespionnage Pegasus à l'étranger. Mais finalement, face à la pression, le Parlement israélien a annoncé la création d'une commission d'enquête qui sera chargée de vérifier les accusations portées contre la NSO. Une bonne nouvelle pour le directeur général de l'entreprise, Shalev Roulio, qui a réagi au micro de la radio militaire israélienne en dénonçant un complot.
C'est la meilleure chose à faire. Je pense qu'il y a eu une campagne organisée et parfaitement orchestrée. Quand vous avez soudain 180 journalistes du monde entier qui se rassemblent, bien sûr qu'il y a des gens qui se cachent derrière tout ça.
Le scandale pourrait amener le gouvernement israélien à revoir sa politique concernant les exportations dans le domaine de la cybersécurité. L'an dernier, les investissements dans les start-up israéliennes du secteur représentaient presque 2,5 milliards d'euros. L'État hébreu ne veut pas perdre ce juteux marché. Jérusalem, Clotilde Mravko, Europe 1.
7 ans de prison, dont 2 avec sursis, pour un ancien agent de la sécurité intérieure. L'homme de 35 ans avait vendu sur le Darknet des informations tirées de fichiers de police protégés pour l'appât du gain, a-t-il précisé. Il a été condamné aujourd'hui par le tribunal correctionnel de Nanterre.
19h08, il y a 10 ans, la Norvège était secouée par des attaques perpétrées par un extrémiste de droite. Toutes les cloches du pays ont sonné à la mi-journée pour saluer la mémoire des 70 personnes tuées et toutes citées.
Marie Orvik Andreasen. Kai Hauge.
Mona Abdenour.
Andreas Behring Breivik avait donc le 22 juillet 2011 d'abord fait exploser une bombe près du gouvernement à Oslo. Habillé avec un costume de policier, il avait ensuite ouvert le feu sur un rassemblement de jeunesse travailliste sur l'île d'Utøya.
Dans l'actualité sportive, les Bleus ont débuté la compétition aujourd'hui à Tokyo, à 24 heures de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques.
Oui, une entrée en lice difficile. L'équipe de France de football s'est lourdement inclinée 4-1 face au Mexique, malgré un pénalty d'André-Pierre Gignac.
Profitons encore de la chaleur, car le temps va s'inverser, nous dira Marlène Duret dans un instant.
En ville, dans les jardins, en vacances, les pieds dans l'eau pour se rafraîchir, ou sous un parasol comme Michel qui habite Poitiers et qui est venu profiter de la plage en Charente-Maritime.
En vacances. Voilà. Moi j'aime bien la chaleur, mais bon, j'aime pas être en plein soleil, c'est tout. C'est pour ça que je suis à l'ombre. C'est pour ça que je me mets à l'ombre. Et bien vous voyez, je fais du sudoku. Moi j'aime pas l'eau, donc je suis là pour mes petits-enfants. Donc là ils sont dans l'eau avec ma fille qui est avec eux, voilà. On a eu très froid, donc je trouve ça très agréable, c'est très bien. Mais ça va pas durer de toute façon, donc faut pas se faire d'illusions. Ils annoncent des orages pour la fin de la semaine, donc ça va nous rafraîchir, voilà.
Un témoignage recueilli par Laura Taouchanoff.
Merci beaucoup, c'était le journal de Sophie Tussaud qui revient bien sûr vous informer à 20h. La météo justement, Marlène Duret, il fait très chaud et conséquence, eh bien, il va y avoir des orages, comme le disait cette dame, prudence en Bretagne.
Oui, avec cet air frais d'altitude, cette goutte froide en fait qui nous arrive de l'Atlantique et forcément, conflit de masse d'air, on va effectivement voir des orages. Alors en Bretagne, 3 départements ont été placés en alerte orange, les Côtes d'Armor, le Finistère, le Morbihan, donc changement radical hein, par rapport à ces derniers jours. Prudence, les premiers orages, on les attend en début de matinée, ils peuvent être déjà violents, s'accompagner de pluies intenses, d'un risque de grêle, de forte rafale de vent à 90 km à l'heure. Et puis après une accalmie en début d'après-midi, une nouvelle vague orageuse, vous voyez, ça se fait en deux temps, va arriver avec encore des pluies, de bonnes pluies, des cumuls importants aussi probablement, parfois de la grêle. Et ces orages fileront vers l'Angleterre. Alors ailleurs, parce que ça nous intéresse aussi, de l'Aquitaine à la Normandie, eh bien le ciel va commencer à devenir un peu plus nuageux. D'ailleurs, quelques orages pourraient arriver en basse Normandie déjà dans l'après-midi. En allant encore un peu plus vers l'est, et ça va concerner presque tout le pays, le reste du pays, les trois quarts est, eh bien le temps va devenir lourd, le ciel va se voiler, ça sera encore bien sympa le long des frontières du Nord et autour de la Méditerranée, si on ne tient pas compte des quelques entrées maritimes qui pourraient d'ailleurs s'approcher du golfe du Lion. Du vent, allez, sur la chaîne pyrénéenne, on est complet, et les températures qui baissent en Bretagne, effectivement, sur le littoral atlantique, avec 22 à 27 degrés. Ailleurs, allez, 26 à 32, de la Normandie et des Hauts-de-France, jusqu'aux régions du Grand Est et à la Franche-Comté, sur le littoral méditerranéen et en Corse, donc vous avez bien entendu 26 à 32, partout ailleurs 30 à 36 avec encore des pointes à 37 38 dans le sud-ouest et notamment dans le Tarn. Est-ce que vous voulez connaître la suite du programme? Est-ce qu'on a un petit peu le temps?
Allez-y, Marlène.
Parce que vendredi soir, dans cet air chaud, des orages vont prendre naissance, déjà dans le Limousin et l'Auvergne dès 22h, ça va remonter vers la Bourgogne dans la nuit, et on va retrouver ce samedi un axe orageux du massif central au Lyonnais, aux régions du Grand Est jusqu'aux frontières du Nord. L'Île-de-France semble épargnée, des orages peuvent être assez forts, attention, une nouvelle alerte orange pourrait être enclenchée dans ces régions, et puis dimanche ça s'annonce quand même plus calme. À noter qu'en Bretagne on va encore avoir des retours pluvieux orageux, donc on n'en a pas terminé avec la pluie.
C'est complet, c'est signé Marlène Duret, merci beaucoup.
Europe Soir, le 18-20, Thierry Dagiral.
Et tous les soirs de l'été, rendez-vous pour une découverte littéraire avec Stéphane Place, en partenariat avec la librairie Mola à Bordeaux. Ce soir, le bloc-notes de François Morouette.
Craint aussi bien par la droite que par la gauche, tant ses analyses faisaient mouche, pendant 18 ans, de 1952 à 1970, à l'Express d'abord, au Figaro ensuite, François Mauriac a tenu son bloc-notes. Des billets sans concession, le prix Nobel de littérature savait capter la dimension romanesque de la politique, croquer les figures de l'époque, n'hésitant pas d'ailleurs à se servir du physique de ses personnalités pour mieux nourrir quelques formules assassines. Aux yeux de Mauriac, il n'y avait bien que Mendès France et De Gaulle qui sortaient vraiment du lot. Près de 3000 pages, la réédition dans la collection bouquins du bloc-notes de François Mauriac vaut le détour. Il ne faut pas se laisser impressionner par l'épaisseur de ces deux volumes. Pierre Coutel, libraire chez Mola.
D'abord, extrêmement drôle, assez cruel parfois, mais avec une clarté de vision, avec un humanisme, avec un sens du politique sur le moment, alors que, rappelons-le, on est évidemment au moment de la guerre d'Algérie, les tensions politiques au sein de la société française sont très fortes, et dans lequel, alors que lui est identifié comme une espèce d'écrivain catholique, réussit à s'engager pour des causes qui ne sont a priori pas celles de son camp. Et il le fait avec une clairvoyance, avec un goût de la vérité, vérité, avec un sens de la formule tout à fait incroyable. On ne dévore pas évidemment 2000 pages d'un coup. Souvent, ce qui est très beau avec le bloc-notes, c'est qu'on va en commencer un en disant « allez, j'en lis un ou deux » et en fait, entraîné dans la foule des jours, on finit par en avoir lu 100 ou 150 pages à l'affilée parce que ça se dévore comme une gourmandise.
Auteur de la préface de cette réédition du bloc-notes, Jean-Luc Barré dirige la collection Bouquins chez Robert Laffont.
Cette passion de la politique qui est fondée sur ses valeurs chrétiennes, le jugement de Moria qui ne se fonde pas sur la droite, sur la gauche, ni sur la bourgeoisie, ni sur aucune classe sociale, témoin du Christ. C'est-à-dire que très jeune, Mauriac est éveillé à la politique par l'affaire Dreyfus, qu'il ne connaît pas, mais tout de même, il a été élevé par un milieu qui lui expliquait que Dreyfus était coupable, sa mère entre autres. Et son oncle, qui était un athée, qui était un magistrat, lui a dit un jour, Dreyfus est innocent. Et il y a une prise de conscience chez Mauriac très jeune sur l'idée qu'au fond, on lui avait menti, et que son rôle serait celui d'un démystificateur, quelqu'un qui saurait montrer la vérité des choses, telle qu'il la percevait, à travers quelque chose d'essentiel, qui est aussi le fil conducteur de ce bloc-notes, c'est sa sensibilité. Et puis ce qui fait l'unité de ce livre, ce qui le rend magnifique, c'est le style. Mauriac a une écriture totalement beaux-artienne. C'est d'une beauté, c'est d'une finesse, c'est une espèce de légèreté qu'on ne trouve sans doute pas ailleurs dans son œuvre. C'est sans doute en cela que le bloc-notes est son chef-d'œuvre.
Avec une liberté de ton, une liberté tout court d'ailleurs, qui ne s'applique pas juste à la politique, mais bien plus largement à la société de l'époque, à ses évolutions comme à ses tourments.
Stéphane Place, en partenariat avec la librairie Mola à Bordeaux.
Europe 1, Thierry Dagiral.
19h15, dans un instant, on ouvre le Club des idées. On va notamment se replonger dans l'histoire des JO, de ceux qui sont passés. Et puis on regardera aussi les enjeux de ceux qui s'ouvrent demain à Tokyo. On en parle ce soir avec vous, bien sûr, 39-21. A tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Thierry Dagiral.
Et on ouvre le débat du Club des idées. On va s'intéresser aux Jeux Olympiques de Tokyo, dont bien sûr la cérémonie d'ouverture aura lieu demain, une édition particulière sous le régime du Covid à huis clos, avec des protocoles très stricts, on va en reparler dans un instant. Mais pourquoi cette épreuve sportive nous fascine-t-elle tant? Et quels sont les objectifs de la délégation française pour cette année? On va en parler ce soir avec du beau monde, hein, Patrick Montel, journaliste et commentateur historique de l'athlétisme, auteur de mes héros des JO aux éditions du Rocher. Bonsoir Patrick.
Bonsoir.
Merci d'être là. Avec Corinne Boulot, bien sûr, cette fameuse voix d'Europe 1, rédactrice en chef adjointe du service des sports d'Europe 1. Bonsoir Corinne.
Bonsoir Thierry,
et
bonsoir.
Et puis Daniel,
à tous.
Daniel Potra, journaliste ayant participé à combien de JO?
Beaucoup.
Des JO 20, d'été, 20. JO d'été, JO d'hiver, l'un des rares Français à être décoré de l'ordre olympique, auteur de Mémoires olympiques aux éditions Mareuil. Et puis vos premiers Jeux olympiques, c'était justement à Tokyo?
Non, oui, c'était à Tokyo en tant que dans une chaîne concurrente, ouais. Radio France,
voilà. en 1964.
Mais auparavant, j'étais même allé quand j'étais lycéen, ouais, aux Jeux Olympiques de Rome. Ouais. J'étais allé en scooter.
Corinne Boulou, alors ils ont décalé à cause du Covid ces JO. Ils sont à huis clos, on l'a dit, mais ça y est, on y est. C'est Tokyo 2021. Il y a toujours autant d'excitation chez vous?
Ah oui, parce que les Jeux Olympiques, c'est quand même un événement hors normes, on retrouve les meilleurs dans chaque discipline de la planète. Il y a des surprises, il y a des pleurs, il y a des hurlements. On a tout sur les Jeux Olympiques. Et puis, c'est une épreuve qui regroupe tellement de pays, tellement d'athlètes de toutes nationalités, hommes, femmes. D'ailleurs, les Jeux Olympiques essayent de tendre vers la parité, ce qui est une bonne chose aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il se passe toujours des choses formidables.
Patrick Montel, pourquoi? D'abord, les audiences sont dingues, hein, à chaque fois. C'est combien? 5 milliards de téléspectateurs sur l'ensemble, bien sûr, du
globe? Oui, je sais pas. Moi, j'en ai noté 4, mais j'en ai peut-être oublié un en route. Non, peut-être pas. Oui, bien sûr. Non, c'est l'événement interplanétaire numéro 1.
Mais pourquoi ça fascine autant?
Quels
sont les ingrédients, finalement?
Je pense que les ingrédients, il faut les chercher dans l'Antiquité. Je pense qu'il y a, il y a ce rapport à l'Antiquité qui est extrêmement fort et que le baron Pierre de Coubertin a réussi à faire perdurer en rénovant les Jeux en 1896.
Exact.
Mais les histoires, c'est comme disait Corinne, les histoires sont tellement énormes, tellement exceptionnelles que tout le monde est forcément, alors pas forcément captivé, mais en tout cas à l'écoute de ce qui va se passer, même dans des Jeux à huis clos.
Corinne?
Ouais, sincèrement, quand vous êtes dans un stade olympique, déjà, la cérémonie d'ouverture, c'est déjà un moment important. Alors là, évidemment, à Tokyo, ça va être particulier, parce
Bien sûr.
Sans public,
à huis clos,
ça ne s'est jamais vu, évidemment. Donc là, Là aussi, c'est hors norme. Quelque part, ces jeux, ils resteront dans l'histoire aussi pour ça. Mais ils existent pour tous ces sportifs qui vont aller chercher l'or, le Graal. Ils ont préparé ça pendant 5 ans. Parce que normalement, ça devait être, c'est tous les 4 ans. Hein. Bon, là, ils ont dû se préparer une année
c'est
plus.
C'est une chance, d'ailleurs, d'avoir un an de préparation en plus.
Pour
ou alors,
certains,
justement,
ça dépend pour qui. Ça dépend pour qui. Ça dépend pour qui.
Pour certains, oui. Si vous, par exemple, le nageur Mehdi Metella, il n'aurait pas pu. Il était blessé il y a un an. Il n'aurait pas pu être là. Enfin, disputer les Jeux Olympiques de Tokyo, cette année, il le peut, parce qu'il a eu une année de plus. Pour d'autres, eh bien, c'est le poids des années qui est difficile.
Daniel Potra, vous qui avez vécu tant de JO, ça va être une année particulière, finalement, des JO sans saveur, sans public, à huis clos.
Moi, je suis surtout triste pour mes amis japonais, parce que j'ai eu la chance de vivre les Jeux de 1964 et Tokyo, c'était l'Extrême-Orient, mais c'est aussi la découverte véritablement d'un nouveau monde. Et puis, c'était l'entrée de l'olympisme dans la vie du monde également. Parce qu'après les Jeux olympiques de Tokyo, on a vu tous les produits de l'industrie japonaise, l'électronique, l'électroménager, les voitures, tout ça, envahir le monde. Et ça, c'est grâce aux Jeux olympiques. Et cette année, je suis sûr que les Japonais nous auraient réservé des Jeux super, des Jeux remarquablement organisés. C'est un pays, ce sont des gens d'une gentillesse, d'une politesse, d'un raffinement. Et c'est vraiment dommage qu'ils n'aient pas pu s'exprimer comme ils auraient dû le faire.
Patrick Montel, ce qu'il faut bien dire aussi, c'est que bien évidemment, il y a l'aspect sportif, fascinant, voilà pourquoi on regarde. Il y a aussi pour le pays qui accueille une promotion énorme, gigantesque.
Alors justement, c'est un peu le problème pour moi aujourd'hui, c'est-à-dire que les Jeux Olympiques ont atteint, je dirais, un seuil maximum. Aujourd'hui, on est dans le gigantisme absolu et je pense qu'il va falloir revoir ce modèle. Alors merci quelque part aussi à la Covid, parce qu'on critique beaucoup mademoiselle la Covid, mais je lui dis aussi merci parce que c'est un signal d'alarme, il y aura d'autres pandémies.
Il y aura un après ?
Il y aura un après. Et je pense que ce qui est vachement intéressant, c'est que c'est Paris 2024 qui va devoir réagir à ça. Le modèle s'essouffle, incontestablement. On le voit ici au Japon, malgré ce que dit Daniel. C'est vrai, les Japonais ont mis le maximum, mais ils peuvent pas combattre vraiment autrement le virus que par un huis clos. Et donc, Paris 2024 va devoir réfléchir à autre chose, à des choses moins gigantesques, avec des budgets peut-être plus maîtrisés, et avec surtout, le fait de remettre les athlètes et le public au centre du modèle. Et là, j'ai un peu peur, avec Tokyo, que les athlètes et le public soient un peu en marge du modèle.
C'est intéressant ce que dit Patrick Montel. Vous êtes d'accord, Corinne Boulou? Il va falloir justement pour Paris... On avait Tony Stanguet tout à l'heure à 18h15. Il va falloir justement revoir pour Paris 2024 que ce soit moins gigantesque et qu'on fasse un retour finalement sur le sport et les athlètes.
Non, mais ce que Paris 2024 souhaite aussi mettre en lumière, en dehors des athlètes bien évidemment, qui sont les stars des Jeux, c'est effectivement d'être au cœur d'une ville, avec le public.
Et
vous allez voir, que dans 3 ans, ça va être des jeux complètement différents. Parce qu'ils essayent peut-être de mettre une cérémonie d'ouverture, par exemple, hors stade olympique. Ça serait aussi une première. Pour que le public soit au contact. C'est aussi je dirais pour le public, c'est l'occasion de voir des athlètes qu'ils ne verraient jamais. Pour ceux qui sont à domicile, une nageuse comme Laure Manaudou, a toujours regretté de ne pas pouvoir faire de la compétition et notamment des championnats du monde ou des championnats d'Europe, il y en a eu en petit bassin, mais des championnats du monde ou des jeux à domicile. Ça, c'est un truc extraordinaire. On l'a vécu à Londres. C'était vraiment à côté de la maison. Les Français qui sont venus vraiment ont frissonné de plaisir en voyant, en étant au stade olympique, dans le parc olympique, dans les différents sites olympiques. C'est quand même, encore une fois, une chance extraordinaire. Alors évidemment, ça a un coût, mais ça développe beaucoup de choses. Daniel Potra l'a dit, il y a énormément de choses qui vont se développer parce que
la géopolitique économico-sportive est en train de se développer. Non, pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, les Jeux, c'est un petit peu comme le Tour de France. Il y a toute une légende autour. Et cette légende, elle est créée par des héros. Ouais. Et ça a commencé avec Léonidas, avec Milon de Crotone, avec Philippides, le premier vainqueur du marathon, si on peut dire, quand il était venu annoncer la victoire d'Athènes. Aujourd'hui, il y a une autre forme de développement. À Paris, par exemple, on aura du roller, on aura du breakdance. Tout ça, moi, oui. A priori, et je pense que mes deux voisins sont un peu d'accord avec moi, on n'est pas tout à fait d'accord, mais finalement, ça rejoint en fait l'ambition de Pierre de Coubertin qui voulait faire des Jeux Olympiques la fête, le rassemblement quadriennal du printemps humain. Alors j'espère que ce printemps humain, on pourra le vivre à Paris en 2024.
Et puis bien sûr les JO, on va en parler longuement tout à l'heure, c'est bien sûr le sport, c'est aussi des grands moments de l'histoire. JO 1936 à Berlin.
Ouais.
1968 à Mexico, c'est aussi vraiment
72
Munich. 72 Munich, bien évidemment.
Moscou,
c'est
aussi, boycott et tout ça.
C'est aussi la petite histoire de la grande histoire, finalement.
Bah, ça épouse les soubresauts du monde entier. Je ne sais pas si vous le savez, mais Daniel le sait, évidemment, mais Tokyo... qui a organisé les Jeux en 1964 aurait dû les organiser en 1940. Ils avaient été choisis pour organiser les Jeux Olympiques en 1940 et évidemment ces Jeux Olympiques n'ont pas eu lieu. Donc finalement, les Jeux Olympiques, comme le sport en général, épousent la géopolitique. Et aujourd'hui, la star des Jeux, je sais que ça ne fait pas plaisir de le dire, c'est pas Teddy Riner, c'est pas Renaud Lavilloni, c'est Mademoiselle la Covid qui aujourd'hui s'est invitée et il va falloir faire avec.
Oui, mais les Jeux ont triomphé quand même, là, s'ils ont lieu normalement.
Ouais, sauf pendant la guerre, ils n'ont pas triomphé. Hein. Ouais.
Avant de marquer une pause, je voudrais qu'on écoute au 3921 nos auditeurs. Bonsoir Nathan.
Bonsoir.
Jeune auditeur de 26 ans, vous habitez en Normandie et vous allez regarder demain, bien sûr, dès demain, ces fameux JO de Tokyo.
Bien évidemment, bien évidemment.
Qu'est-ce qui me fascine ?
Ah, c'est que c'est quand même la compétition internationale par excellence. Ouais. Ça réunit les meilleurs athlètes dans les meilleures disciplines. Mmh. C'est ce qui donne envie de regarder, évidemment.
Vos espoirs à vous, français ? Allez. Dites-nous.
Moi, c'est plus dans le judo ou dans l'escrime.
Donc, Teddy.
Teddy, après même s'il revient de blessure, comme il l'a dit, mais je pense quand même qu'il peut obtenir une médaille, ça serait hors norme. Ouais. Après, l'escrime, ouais, où on domine depuis un certain temps. Et le handball. Handball, ouais, surtout. D'accord. Même si on n'a plus trop cette ferveur, je pense qu'on peut l'avoir.
Daniel Potra parlait justement des nouveaux sports qui vont arriver lors de ces JO Tokyo et puis à Paris 2024. C'est intéressant pour vous ?
Pour moi, oui. Oui, ça apporte un peu une nouvelle lumière, une nouvelle image des Jeux Olympiques, qui essaie d'un peu de se moderniser avec des sports comme le surf et le skate. Mm-hmm. Je pense que c'est des sports qui méritent d'avoir un peu plus de lumière. Donc oui, je pense que c'est vraiment une bonne nouvelle, une bonne idée, une bonne initiative.
Ouais. Donc dès demain, vous êtes soit à l'écoute d'Europe 1, soit en train de regarder la télévision.
Ça, c'est sûr.
On compte sur vous. Restez à l'écoute. Merci. Merci à vous, Nathan. 26 ans de Normandie. Merci. Bon JO à vous. Allez, on marque une première pause et puis on continue, bien sûr, à retracer, à parler de ces JO de Tokyo demain, puis à retracer, à regarder un peu dans le passé, dans l'histoire avec nos invités. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Thierry Dagiral.
À 19h28, on parle de vos JO, des JO, des Jeux Olympiques qui débutent demain donc à Tokyo. C'est votre débat du Club des Idées. On est ce soir avec du beau monde, hein, Patrick Montel, journaliste, bien sûr, commentateur historique de l'athlétisme. Corinne Boulot, grande voix d'Europe 1, rédactrice en chef adjointe au service des sports d'Europe 1. Et puis Daniel Potra, journaliste ayant participé à, vous me disiez, 20 oui. JO d'été et d'hiver. On parlait du budget, on parlait du fait que maintenant ce soit gigantesque, hein, tout à l'heure. Tokyo 2021 s'annonce comme les Jeux d'été les plus chers de l'histoire, 15,5 milliards de dollars.
Voilà.
C'est
donc
fou.
Bah, c'est complètement dingue et c'est pour ça que Patrick le Montel. Plus important, je suis désolé, j'ai peut-être un peu rafraîchir l'atmosphère, mais le plus important, c'est pas tellement la grande fiesta des 15 jours, même si pour les athlètes, c'est quelque chose d'extrêmement important. L'important, c'est l'héritage. Et l'héritage, c'est ce qu'on va laisser après. Et je pense que Paris 2024 est très sensible à cette notion d'héritage, c'est-à-dire dépenser autant d'argent. Déjà, c'est un problème quand on sait qu'il y a énormément de gens qui ont du mal à finir les fins de mois. Alors, autant que cet argent serve après et pas seulement pour 15 jours. Et c'est pour ça que cet héritage-là, il est absolument capital aujourd'hui. Et je pense que c'est la raison pour laquelle le modèle actuel s'essouffle un peu, parce que l'héritage, justement, il n'est pas évident. À Atlanta, ils ont tout démonté. À Athènes, ce sont des friches. On peut multiplier les exemples. Comment ?
Rio, n'en parlons pas.
À chaque fois, ça a été une catastrophe. Et il faut absolument que Paris, mais je sais qu'ils en sont parfaitement conscients, que Paris, justement, propose un héritage digne de ce nom.
Ouais. Les deux derniers exemples en France sont positifs, quand même, parce qu'aussi bien Daniel Grenoble Poutrin. 68, qu'Albertville 92, ont laissé un bel héritage, aussi bien dans le Dauphiné qu'en Savoie.
Oui, mais à l'époque, les budgets n'étaient pas comparables.
C'était pas le même.
Il y a l'argent, il y a beaucoup d'argent, il y a aussi l'aspect aussi écolo, environnemental, le coût écologique. Est-ce que le CIO avance sur ce point-là précisément ?
Bah moi, je ne sais pas, je n'ai pas l'impression. Enfin, peut-être que Corinne va trouver des beaux exemples, mais moi, je reste sur Sochi, qui a été une catastrophe au niveau écologique, qui a coûté aussi extrêmement cher. Je crois que c'est les Jeux d'hiver les plus chers de l'histoire, avec une montagne défigurée, avec une rivière polluée et avec aujourd'hui une situation catastrophique au niveau écologique. Donc, est-ce que le CIO en a pris conscience ? J'en sais rien.
Corinne Blou. Alors, le CIO, évidemment, a été obligé d'en prendre conscience parce qu'avec ses budgets démesurés, il ne trouvait plus de villes candidates.
C'est ça.
Et donc, il a fallu revoir ça. Ça s'appelle l'agenda 2020 de maîtrise des coûts. Et Paris en sera le premier exemple, puisque le budget de Paris s'élève au global à 6,6 milliards d'euros, dont 3,8 milliards d'euros de financement privé pour le COJO, c'est-à-dire le comité d'organisation des Jeux Olympiques. Et ils prennent tous les éléments en compte, c'est-à-dire aussi l'empreinte carbone. Ils travaillent aussi avec différents organismes, notamment le WWF pour le village olympique, et donc construire des bâtiments durables, mais aussi dans les normes environnementales. Donc tout cela a été pris en compte. Mmh. Et je vous le disais, ils étaient obligés. Parce qu'encore une fois, ils commençaient à avoir des difficultés pour trouver des villes candidates pour organiser les Jeux. Ça ne pouvait plus continuer comme ça. Oui, exactement.
Alors, on va parler de nous maintenant, un peu la France dans cette compétition. Il y a 378 athlètes qui vont représenter donc la France à Tokyo, avec une moisson record de 42 médailles à Rio, 10 en or, 18 en argent, 14 en bronze. La délégation française s'est fixé un objectif similaire pour cette édition. Corinne ?
Oui, alors elle ne veut pas souvent donner de chiffres précis, mais c'est une quarantaine de médailles. Pour le moment, la délégation française olympique, c'est un peu son plafond de verre. C'est-à-dire qu'à Pékin, on a eu 43 médailles, c'est le record, mais seulement 7 en or. Et il y a eu à Rio, par exemple, lors des derniers Jeux, il y a 5 ans, 42 médailles, dont 10 en or, ce qui faisait de la France la septième nation au rang mondial.
Ouais, mais ça ne veut pas dire que c'est la septième nation sportive. Hein. Ouais. Et moi, ça m'énerve, ce tableau des médailles, ça m'insupporte. Mais je vous le dis clairement.
On est obligé de faire la comptabilité à la fin
des Jeux. Ok, mais ça m'insupporte, je vais te dire pourquoi. Parce que ça ne reflète en rien la santé sportive d'une nation. Quand on fait le comparatif, moi je l'ai fait, entre le tableau des médailles, on a en tête les États-Unis, en deuxième position la Chine, en troisième position le Royaume-Uni, et comme le dit Corinne, la France en septième position. Et quand on fait les pays où la pratique sportive est la plus développée, que ce soit le sport actif ou le sport loisir, c'est Taïwan qui gagne devant la Norvège et la Nouvelle-Zélande. Et la France, elle est, vous le savez, en combien de positions ? La France, elle est 25e. Ouais. Donc, il ne faut pas se leurrer. On ne sait pas parce qu'on a des médailles aux Jeux Olympiques qu'on est en meilleure santé et qu'on pratique plus le sport.
Mais derrière, ça booste les fédérations. Derrière, c'est toute l'économie du sport aussi.
Oui, l'économie du sport, je veux bien. Mais moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est essentiellement le sport santé. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui qu'en pratiquant le sport, on vit mieux et on vit plus longtemps. Et normalement, les médailles aux Jeux Olympiques, ça devrait d'abord servir à ça, à donner envie aux gens de pratiquer le sport.
C'est souvent le cas, Patrick.
Je suis désolé.
Après des Jeux Olympiques, souvent, les fédérations, si il y a des médailles d'or en judo, la fédération de judo, elle va recevoir plein de petites filles et plein de petits garçons qui vont vouloir venir. Là, avec le Covid, en plus, les fédérations, elles en ont besoin. Elles souffrent financièrement en ce moment.
Est-ce que vous savez qu'en 40 ans, les gamins des collèges et des lycées ont perdu 25% de leur capacité cardio-pulmonaire. Ils courent moins vite et moins longtemps.
Mais là, on ne parle pas de fédération et de gens qui vont dans les clubs. Là, vous me parlez de l'école. Évidemment, il y a un problème au niveau de l'école. Mais ça, c'est l'éducation nationale qui peut s'emparer du sujet. Là, c'est un autre, un autre domaine.
Dites-moi, on va rentrer dans les détails. Les espoirs français. Allez, prenons le judo. Teddy, bien sûr, Teddy Riner.
Oui, ben justement, on aurait besoin d'une victoire de Teddy Riner avec un troisième titre olympique. Il entrerait dans la légende. Mmh. Et c'est cette légende qui fait du bien aux Jeux olympiques. Mais
N'oublions pas en judo Clarisse Agbenyénou.
Oui, c'est ça. Fait.
Bien sûr. Sacré potentiel en or.
Ouais. Et Teddy, c'est quoi? C'est 10 titres de champion du monde, double champion olympique.
Il a eu quelques petits problèmes de santé ces derniers temps.
Donc, Corinne sera l'homme à suivre ou pas?
Oui, bien évidemment que c'est l'homme à suivre. Il a été le porte-drapeau à Rio il y a 5 ans.
Mais...
Il a fait un break après Rio parce qu'il en avait besoin. Mmh. Parce que physiquement et mentalement, c'est énorme. Hein. En plus, il est l'emblème, c'est vrai, souvent du sport français. Bon, il faut lui faire confiance, hein. Il se connaît par cœur, Teddy Riner, hein. Donc il va essayer.
C'est au pays des Japonais quand même.
Ah oui,
c'est ce que je voulais dire. les Japonais, ils l'aiment bien.
Mais ils aimeraient bien le battre quand même.
Que ce soit un Japonais, parce que j'étais en 64, hein, quand j'ai assisté au deuil national, quand le Hollandais Anton Gesink a battu le Japonais. Et là, ça a été un deuil national, c'était... La désolation dans tout le pays.
Patrick, je m'adresse là au pro Patrick Montel de l'athlétisme que vous êtes. Les espoirs en athlétisme?
Alors, les espoirs, on est un peu au creux de la vague. On est un peu au creux de la vague, il faut bien le dire.
Ah oui,
bah oui, parce que parce qu'il y a une génération qui vieillit, une autre qui tarde encore à éclore parce que le point d'orgue, ça sera 2024.
Parce qu'à l'école, ils courent moins vite, etc. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez l'explication.
Donc, en fait, on est entre 0 et 3 médailles. Moi j'aimerais mieux que ça soit 3, et si c'est 3 médailles, Kevin Mayer, je pense, notre meilleure chance sur le décathlon, je vois pas, enfin franchement il faudrait un séisme pour qu'il soit pas champion olympique, mais bon, le séisme au déca il existe. Renaud Lavilloni qui a ressauté malgré son entorse, et c'est un formidable guerrier, et on peut compter sur lui dans un concours olympique comme on a compté sur Pierre Quinon ou sur Jean Galfione. Et puis enfin, moi je vois bien une petite médaille sur 110 mètres haies, soit pour Willem Belossian, le Guadeloupéen du Lamentin, soit pour Pascal Martineau Lagarde, qui a toujours dans ces occasions-là l'occasion de se sublimer.
Alors Corinne, moi j'ajoute deux femmes.
Vas-y.
Hein, Mélina Robert-Michon, vice-championne olympique du disque.
Sixième Jeux olympiques.
Voilà, pourquoi pas, elle a commencé à Sydney. Elle est capable, elle aussi se connaît très bien. Et puis Alexandra Tavernier, qui au marteau est capable aussi d'aller chercher un podium.
Absolument, je suis entièrement d'accord. Écoute, si on a 3 médailles, c'est super.
Ah bah oui, on en a eu 6 à Rio en athlétisme,
ouais,
c'était un record.
Il faut pas rêver. Hein.
Allez, on a grandi le cercle. On reçoit Guillaume Évin, journaliste et écrivain depuis une vingtaine d'années, auteur de Petites histoires de domination sportive aux éditions du Rocher. Bonsoir Guillaume.
Bonsoir.
Vous, vos pronostics pour ces JO de Tokyo?
Je pense que la France va se maintenir à peu près à son niveau, c'est-à-dire 6, 7, 8, 8e nation à peu près.
Ouais. Quels sont les athlètes qui vont nous impressionner selon vous, allez?
Écoutez, je dirais, comme Corinne Boulou, je pense que Teddy Riner, ça pourrait être même l'homme des Jeux. Parce que si vous voulez gagner à Tokyo... Donc dans l'antre des Japonais, mais ce serait un exploit fantastique. Ouais. Il pourrait même faire pleurer les Japonais, plus encore que ne l'avait fait Gesink en 64. Mmh. Ce serait vraiment un cataclysme pour eux.
Vous expliquez dans votre livre qu'il y a une grande tradition chinoise.
Disons
de broyer les sportifs, c'est ça? Expliquez-moi, ça veut
oui,
dire
bah
quoi
si. Bon, c'est-à-dire que, non, ouais. Mais d'une certaine mesure... Pour exister pacifiquement dans le concert international, les nations disposent de plusieurs leviers. Elles peuvent envoyer des hommes dans l'espace, gagner des Oscars, remporter des prix Nobel et décrocher des médailles. Mmh. Décrocher des médailles, c'est un objectif vital pour les grandes puissances, dont la Chine. C'est le soft power après lequel tout le monde court. Et la Chine, en fait, a misé sur certaines disciplines. Ça remonte à Mao, à l'époque où... Elle n'était pas très concurrentielle. Alors, ils avaient isolé 3 disciplines, le plongeon, le badminton et le tennis de table.
Oui.
C'était des sports dans lesquels les États-Unis et l'Union soviétique n'étaient pas encore ultra puissants. Et donc, la Chine s'est engouffrée, et avec les moyens humains et financiers qu'elle possède, elle a tout écrasé.
Oui. Autre chose, dans votre livre, vous racontez que lors des JO, donc en 64, le Japon avait été humilié en judo par la Hollande. La question, bien sûr, qu'on se pose tous 55 ans plus tard, est-ce qu'il y a une espèce de malédiction qui plane sur le Japon? Est-ce que ça sera encore le cas lors de ces JO 2021?
On ne peut pas parler de malédiction. Alors c'est vrai que le Japon devait d'ailleurs organiser les Jeux aussi dès l'après-guerre, et puis ouais. Il ne l'avait pas fait. Donc là, il y a eu la menace de l'annulation à cause de la pandémie. Donc c'est pour ça que le Japon s'est arc-bouté pour maintenir coûte que coûte. Il ne voulait pas être le premier pays à annuler deux fois les JO. Ouais. Donc pour eux, ça revêt une dimension capitale, hein, une question de prestige. Et puis, il y a le sport roi chez eux, donc le judo, gros pourvoyeur de médailles, puisqu'il reste sur la durée et de très loin la première nation mondiale. Mais effectivement, Riner, Agbenienou sont deux cartes maîtresses pour les Français qui pourraient les faire vaciller.
Merci à vous Guillaume Évin, journaliste et écrivain depuis une vingtaine d'années, donc auteur des Petites histoires de domination sportive aux éditions du Rocher. Je voudrais qu'on parle de Samir Aït Saïd. Demain, il va porter, ce sera le porte-drapeau de la France, notamment Corinne Boulou.
Oui, un gymnaste qui a une histoire contrariée hein, avec les Jeux, blessé à Londres. Et puis alors tout le monde se rappelle, c'était en Mondiovision.
Horrible.
Cette réception ratée et sur laquelle il se fait une double fracture, tibia péroné si je ne me trompe pas. Et à la force du courage, du mental, il est devenu kiné. Papa aussi, là, ces derniers mois, eh bien, il force le respect, Samir Aït Saïd, et il va essayer d'aller chercher une médaille, même si en gymnastique, évidemment, la concurrence est très relevée. Mais c'est une belle consécration.
Patrick
pour,
Montel, ça peut être la bonne pour lui.
Je ne sais pas si ça sera la bonne, mais moi, je trouve que c'est un super choix d'avoir choisi cet athlète, parce que c'est un symbole. Ça veut dire qu'il ne faut jamais renoncer. Ça veut dire que tout est possible, même quand vous êtes au fond du trou. Et cette image-là, je l'ai dans la tête, et tout le monde l'a dans la tête, l'image de cette double fracture terrible. Eh bien, il est revenu. Il est revenu au plus haut niveau. Et même s'il n'a pas de médaille, ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est qu'il a... Il n'a jamais renoncé. Et c'est quelque chose qu'on doit forcément se mettre dans la tête. Les athlètes de haut niveau, évidemment. Mais nous tous, dans la vie de tous les jours, bien sûr. Il ne faut jamais renoncer à ses rêves.
Et il a mis au point une nouvelle figure qui n'a jamais été présentée encore. Et d'ailleurs, il l'a baptisée lui-même. Ouais. Laït Samir.
En toute modestie.
Absolument. Ouais. Mais c'est pour dire la volonté qui l'anime.
Ah, c'est incroyable.
Mais je voulais vous dire aussi, vous allez découvrir une révélation. Une petite jeune fille mignonne qui s'appelle... Lecomte, elle s'appelle Loana Lecomte.
Ah, c'est du vélo.
Et c'est elle qui est la favorite de l'épreuve olympique de VTT. Et chez les hommes, eh bien, ce sera presque un Français aussi que nous supporterons. C'est le petit-fils de Raymond Poulidor, Mathieu Van Der Poel. Mmh. Et il a porté pendant près d'une semaine le maillot jaune, il y a 15 jours, 3
dans
semaines.
Le Tour de France.
Mais son rêve cette année, plus que le maillot jaune, c'est d'être champion olympique. Il ne pense qu'à ça depuis qu'il fait du vélo. Et il a abandonné le Tour de France pour se préparer. Et je suis tout cœur avec lui.
19h42 sur Europe 1, vous l'entendez, on est entouré de passionnés. Ce soir, on parle des JO, des Jeux Olympiques qui débutent demain. Vous en parlez également avec nous, 39-21. Je vous attends, à tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Thierry Dagiral.
Et c'est votre débat du Club des Idées. On parle bien sûr de ce qui va nous occuper demain, l'ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo. Enfin, on en parle ce soir avec Patrick Montel, journaliste et commentateur historique de l'athlétisme, Corinne Boulot d'Europe 1 et Daniel Potra, journaliste et ayant participé à 20 JO d'été et d'hiver. Je voudrais qu'on parle également de cette compétition des épreuves. 33 sports au total sont au menu de ces JO. Des sports finalement aussi peu médiatisés en dehors des Jeux. C'est aussi ce qui fait l'intérêt des Jeux Olympiques, Corinne Boulou.
Ben oui, c'est qu'effectivement, vous allez avoir des champions olympiques, parfois dans des disciplines qu'on n'attend pas.
Hein. Lesquelles ?
Le tir, le tir à l'arc. Ouais. La voile olympique, on en parle peu aussi. Et nous avons une championne olympique qui va tenter de réaliser un doublé, c'est Charline Picon.
Ouais. Le pentathlon moderne.
Voilà, le pentathlon moderne, le triathlon.
Élodie Clouvel.
L'aviron, le canoë-kayak. Tony Estanguet en est un des plus beaux exemples. Puisque lui, c'est un triplé inédit hein, pour le moment en France. Sur trois jeux différents. Ça ne s'est jamais fait encore. Même Marie-Jo Pérec l'a fait sur deux jeux. Elle a réussi
à le faire
un doublé.
Elle aurait dû le faire sur trois. Oui, elle a été volée.
Bon, voilà. Ouais. Mais c'est vrai que vous découvrez ou redécouvrez, pour certains, des disciplines vraiment méconnues. Et
Patrick
ça, c'est
Montel.
Chouette.
Oui, c'est pour ça, j'ai juste un petit coup de gueule, ça va durer 10 secondes.
Oui, non, mais c'est pas le
quand
premier.
Quand je vois ce que dit Corinne, je suis tellement d'accord. Quand je vois que ces athlètes-là, qui sont totalement inconnus et qui malheureusement après les Jeux vont avoir du mal à rester connus, je vois leur investissement et que je vois l'équipe de foot aujourd'hui, j'ai rien contre ceux qui étaient sélectionnés parce qu'ils ont donné tout ce qu'ils avaient.
Battu
mais quand
Mexique,
je vois que les clubs de foot de Ligue 1 ont mis leur veto pour que des joueurs viennent jouer avec le maillot olympique, franchement, je trouve ça scandaleux, quoi, parce que je veux dire, on avait besoin d'une vraie équipe de foot, on avait les moyens de peut-être de gagner le tournoi et de reproduire l'exploit de 1984, ouais. et à côté de ça, bah, aujourd'hui, on est juste ridicule. Donc, et c'est pas la faute des joueurs, surtout pas la faute des joueurs qui sont sur le terrain, c'est la faute des clubs qui ont mis leur veto. C'était mon coup de gueule du soir.
Patrick Montel, gardez votre coup de gueule. On en parlait tout à l'heure, on l'évoquait tout à l'heure, c'est aussi important ces JO parce que c'est une grosse manne pour les fédérations. On se souvient par exemple du boom qu'avait connu la Fédération française d'escrime après le carton des Français à Athènes en 2004.
Oui, bien sûr, c'est ce que disait
c'est
Corinne.
C'est aussi ce qui se joue finalement là.
Comment
aussi. C'est aussi ce qui se joue.
Mais bien sûr, je veux dire, c'est tous les gamins qui regardent les Jeux et qui voient des sportifs briller, ils ont envie d'aller les imiter. Ouais. Après, le problème, c'est pour ça que je parle d'héritage. Après, il faut avoir des infrastructures pour les accueillir. Parce que quand vous avez plein de gamins qui arrivent et que vous ne savez pas quoi en faire, bah, vous les perdez automatiquement. Donc, c'est pour ça que l'héritage des Jeux est aussi important que la fête elle-même. Mais ouais. Évidemment que c'est une motivation incroyable pour toute la jeunesse.
Comment on choisit les épreuves ? Comment sont choisies les épreuves, Corinne Boulon ?
Oh, bah là, d'abord.
Et comment, qui décide de faire entrer tel ou tel nouveau sport ?
C'est le CIO.
C'est le CIO.
C'est le CIO, le Comité International
et
Olympique.
En fonction de quoi ?
Sur proposition, par exemple, pour Paris 2024, ils ont proposé effectivement l'entrée du breakdance ou du roller skate, mais il y a le skateboard, mais là, du roller aussi.
Là, c'est un peu bizarre d'ailleurs, parce que d'habitude, quand il y a un nouveau sport qui arrive, qui veut arriver, c'est la Fédération internationale qui le propose. Il faut qu'il soit pratiqué dans un certain nombre de pays, etc. Là, maintenant, on est au contraire dans ce printemps humain dont je parlais, parce que je ne connais pas, moi, qu'elle existe, la Fédération internationale de breakdance, mais je pense que quand même que cette discipline est pratiquée dans beaucoup de pays dans le monde.
Mais comment ça, Daniel Potra, vous ne pratiquez pas le breakdance?
Bien sûr.
Non, mais bon, ça, c'est une question aussi. C'est pour ramener aussi les jeunes au sport. C'est un.
Oui, mais moi, je croyais qu'il y avait les Jeux Olympiques de la jeunesse qui avaient été créés pour ça, je pense.
Mais il y a une culture urbaine aussi qu'ils souhaitent mettre en avant.
Ouais.
Alors, il y a beaucoup de fédérations
qui postulent auprès du CIO pour dire j'aimerais bien, parce que derrière, en effet, il y a des retombées économiques.
Oui, il y a ça. Et puis, c'est important pour leur fédération, effectivement, de mettre en avant leurs sportifs pour récupérer des licenciés. Ça marche aussi comme ça, mais pour un sportif, c'est parfois plus important d'avoir un titre olympique que d'avoir un titre européen ou même mondial.
Vous savez ce que disait Antoine Blondin à ce sujet ? Il disait,
Daniel Potra,
un champion du monde, après tout, il n'est guère que le champion du monde de sa rue, a grandi un petit peu. Tandis qu'un champion olympique, il y a un parfum d'éternité qui l'accompagne. Et c'est pour ça que les vainqueurs, les héros des Jeux Olympiques, on les assimile, comme le disait Patrick au début tout à l'heure, en parlant de l'Olympe. Ils arrivent à atteindre l'Olympe et on les appelle les dieux du stade.
Exactement, mais c'est comme ça qu'on retient un Usain Bolt, un Carl Lewis,
un
Michael Phelps, un Alain Mimoun, évidemment.
Je voudrais qu'on termine quand même par évoquer cette situation. Patrick Montel, il y a une grosse polémique autour de ces Jeux. Les Japonais n'en voulaient pas du tout. Ils sont en colère.
Ils en veulent toujours pas. Hein.
À cause des risques épidémiques, complètement. C'est tout de même important que ça ait lieu, ces Jeux.
Bien sûr que c'est important. C'est très important parce que ça montre qu'on est prêt à lutter contre un ennemi invisible. Mais après, il faut se donner les moyens de lutter. Alors évidemment, ces Jeux vont être très très différents. Mais les Japonais, comme le disait Daniel, ils ont mis tout en œuvre pour justement que ces Jeux aient lieu.
Et notamment ces écrans géants pour encourager les athlètes.
Oui, je veux dire.
Mais à défaut de public, finalement, il y aura des écrans géants.
Avec une bande son qui va animer le stade.
Oui, mais bon, l'important, c'est qu'ils aient lieu. Ça aurait été une catastrophe terrible si les Jeux avaient dû être annulés encore une fois et pour la première fois à cause d'un virus. Mais il va falloir quand même en tirer les leçons, ça c'est clair.
Corinne, je voyais un reportage l'autre jour sur France 2, je vous dis tout, sur le protocole sanitaire pour les journalistes, pour les athlètes. C'est juste dingue.
Oui, mais c'est normal. Vous imaginez 10 000 athlètes.
Mais ça,
sans compter l'encadrement, leurs encadrements, les entraîneurs, les préparateurs physiques, les kinés, j'en passe, qui vont arriver à Tokyo de partout dans le monde. Donc c'est normal qu'il y ait un cadre sanitaire
mais
très strict.
Mais tous les jours, ce que disait Tony,
mais vous en avez eu pour Roland Garros aussi.
Ils doivent rester dans la chambre. Enfin, c'est quand même.
C'est très dur. Et ça va être...
Mais à l'Open d'Australie en janvier pour le tennis, c'était la même chose. Ils devaient rester 10 jours dans leur chambre d'hôtel.
Mais il faut se mettre à la place des athlètes. C'est-à-dire que l'athlète qui va performer, il aura encore plus de mérite parce qu'il aura dû déjà dans un premier temps respecter ce protocole qui est quand même terrible et drastique puisqu'ils vont être contrôlés tous les jours.
Daniel Potra, vous qui avez connu tant de JO, vous dites finalement, bon, quelle déception un peu, ça va pas être mes JO à moi, quoi.
Non, c'est pas... Mais vous savez... les Jeux, à partir du moment où ils vont démarrer, à partir du moment où il va y avoir des compétitions spectaculaires, où il va y avoir des exploits, et il y en aura certainement, eh bien, les Jeux reprendront le dessus et on les appréciera comme ils sont. Parce que depuis deux ans, on s'est habitué à avoir des stades sans spectateurs. On a regardé des matchs de football importants, par exemple, sans être trop gêné.
Exact.
Eh bien, là je crois que... Et ça permet de noter le rôle de la télévision, d'ailleurs, dans les Jeux Olympiques. Et il faut rappeler, d'ailleurs, que l'image en mouvement, à l'origine de la télévision, a été créée en France par les Frères Lumière à la fin du 19e siècle, au moment où le baron Pierre de Coubertin lançait les Jeux Olympiques. Et depuis, tous les quatre ans, il y a eu des évolutions dans la technique de la télévision qui nous a amené à ce qu'elle est aujourd'hui, et grâce en particulier aux Jeux Olympiques.
Allez, on s'arrête là. Merci. Grand, grand merci à vous trois. Je rappelle vos ouvrages. Daniel Potra, journaliste, auteur de Mémoires Olympiques aux éditions Mareuil. Patrick Montel, journaliste, bien sûr, commentateur historique de l'athlétisme, auteur de Mes héros des JO aux éditions du Rocher. Et puis Corinne Boulou, on va vous retrouver, bien sûr, sur l'antenne d'Europe 1. Ces JO qui seront à suivre sur Europe 1, dans les journaux, bien évidemment, avec vous Corinne entre autres, et puis tous les jours dès samedi de 13h à 14h dans le Club Tokyo. Merci pour votre passion et puis on regarde ça demain avec plaisir. Merci beaucoup.
Europe Soir, le 18-20, Thierry Dagiral.
Dans un instant le jour où, puis vous retrouverez Émilie Mazoyer, mais tout de suite on se met déjà dans l'ambiance, la musique d'Europe Soir, Lizzo pour vous accompagner. Juice, Lizzo sur Europe 1.
Europe 1, Thierry Dagiral.
19h55, le jour où tous les soirs on s'arrête sur un événement du passé, une date, une histoire. Ce soir, Julien Bugier et Rémi Bossaron reviennent sur le premier vol habité dans l'espace.
C'est hier que le général de Gaulle est mort.
Finale de Coupe du Monde.
Moi, président de la République.
Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement.
Yes, we can.
Europe 1.
Bonsoir Rémi Bossaron.
Bonsoir Julien.
Alors j'ai dit une petite bêtise, c'était pas il y a 50 ans, c'était il y a 60 ans évidemment, 12 avril 1961, le jour où Youri Gagarine devenait le premier homme à voyager dans l'espace.
Et ce jour-là, il est un peu plus de 9h, heure de Moscou, quand Youri Gagarine quitte la Terre depuis le cosmodrome de Baïkonour, construit dans le plus grand secret au cœur des plaines kazakhs. Cet ancien ouvrier fondeur devenu pilote de chasse a glissé son M67 dans une étroite capsule propulsée par un missile nucléaire modifié. Après quelques minutes, ses premiers mots résonnent. Ils sont tout simples. C'est parti, dit-il. La suite est sur Europe.
Et maintenant, écoutez Youri Gagarin, il parle à la Terre depuis le Vostok. Écoutez sa voix. Je vois la Terre, la visibilité est bonne, je vous entends parfaitement, le vol se poursuit normalement. Je vois la Terre, on peut tout voir, certains points du ciel sont couverts de cumulus.
Et cette voix, on l'entend donc sur Europe 1, comme partout dans le monde, pour l'URSS, c'est la voix du triomphe.
Oui, car c'est évidemment une immense victoire pour elle. Pour l'Union soviétique face aux États-Unis en pleine guerre froide.
Une victoire qui s'achève dans un champ de pommes de terre pour lui. Après ses 108 minutes de vol autour de la Terre, éjecté de sa capsule, il tombe nez à nez avec une babouchka et doit la rassurer. « Ne vous inquiétez pas, lui dit-il, je suis soviétique comme vous, je reviens de l'espace. » À plusieurs centaines de kilomètres de là, à Moscou, à l'annonce de son retour, la foule envahit les rues et scande son nom. On entend ce nom scandé par la foule à Moscou, donc, où Gagarine arrive le lendemain. Quand il sort de l'avion à l'aéroport, la foule est encore là, et Europe 1 aussi. Gagarine qui s'adresse à la foule, salue ses camarades, dit son bonheur d'être de retour, puis il entre dans la salle de conférence, où il est encore une fois acclamé.
Tous les assistants qui sont présents dans cette salle se lèvent, l'applaudissent longuement. Youri Gagarin lui-même applaudit à la façon russe. Il est en uniforme de commandant de l'aviation.
Commence alors la conférence de presse et Gagarin, on le comprend tout de suite, c'est un outil de propagande. On comprend l'outil de propagande qu'il va devenir, ce jeune homme toujours souriant.
Gagarin, après avoir rappelé sa vie, après avoir rendu hommage, comme l'ont fait tous les orateurs, au Parti communiste, aux savants communistes, on vient à parler de son vol. La conférence de presse de l'homme de l'espace s'est prolongée ainsi, je vous l'ai dit, pendant plus de 2 heures. Que nous ont appris ces 2 heures, à vrai dire, pas grand-chose que l'on ne sut déjà.
Oui, parce que finalement, plutôt que les retombées scientifiques, c'est l'image de Gagarin qui va être mise en avant.
Et d'ailleurs, il paradera comme ça un peu partout dans le monde, au service de l'URSS, avant de disparaître brutalement à 34 ans, tué dans le crash d'un avion qu'il pilotait. Un accident jamais vraiment expliqué. Le rapport d'enquête n'a jamais été dévoilé. Certains en Russie affirment que c'est le Kremlin qui l'a éliminé car il devenait trop populaire. Quoi qu'il en soit, la légende Gagarin ne s'est jamais éteinte, y compris chez les cosmonautes du monde entier, qui tous reproduisent encore aujourd'hui tous ces rituels avant de décoller de Baïkonour.
Génial comme anecdote. Merci beaucoup Rémi Bossaron pour ce récit et cette histoire.
Europe Soir, le 18-20. Thierry Dagiral.
Et après 20h, vous avez rendez-vous avec Émilie Mazoyer. Merci à Naïma Benchéman, Victor Chabert, Harold Caron et Christophe Pierrot qui m'ont aidé à préparer ce 18-20. On se retrouve bien sûr demain vendredi. Je vous souhaite de passer une très belle soirée sur Europe 1. À demain.